L'invité du grand entretien de France Inter ce matin est donc écrivain et philosophe. Il publie chez Gallimard Bilan de faillite. Léa Salamé, vous intervenez dans une dizaine de minutes. Amis auditeurs, vous avez la parole au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Bonjour Régis Debray.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et soyez le bienvenu au micro de France Inter. Ce bilan de faillite est une lettre à votre fils au moment où il doit s'orienter dans la vie, qui commence par s'orienter à l'école et choisir une filière, les lettres, l'économie ou les sciences. À chacune de ces filières correspond une vie possible, l'écriture, la vie politique, le monde intellectuel, autant de vies que vous-même avez vécues et dont vous faites le bilan avant liquidation. Alors sans vouloir vous offenser, ce livre est drôle, on le lit, moi je l'ai lu vraiment, enfin en riant à voix haute. Hein.
Mais vous l'avez bien lu, malgré le titre, c'est pas un livre pour pleurer, c'est un livre pour rire, un rire de moi, rire de nous et de ce que nous sommes devenus. Alors, pas vous Nicolas, mais nous, notre génération.
Oui. La mienne arrive, c'est pour dans pas longtemps. Alors ce sont des mémoires, Régis Debray, un manuel de vie ou un testament? Je vous souhaite longue vie, hein, mais bon.
Disons, c'est un bilan d'expérience. J'emploie le mot bilan parce qu'il faut parler le langage de son temps et notre temps parle gestion, comptabilité, management, donc j'essaye pour me faire comprendre, de dire le résultat. Et le résultat est tellement déficitaire par rapport à ce que j'espérais faire il y a 50 ans, quand j'avais l'âge de mon fils.
Qui est là, en studio, avec nous.
Que je me suis dit, bah écoutez, comme il me demande conseil, je vais jouer carte sur table et je vais lui faire un petit résumé de ce que m'ont apporté ces trois filières qui lui sont présentées. Et j'avoue que le résultat, comme vous le dites, est assez drôle.
Oui, mais vous lui faites un résumé pour l'aider à s'orienter ou vous lui dites ne recommence pas mes erreurs?
Ah, je lui dis surtout de ne pas mettre ses pas dans les miens. C'est pas nous, en médiologie, on a une devise. Transmettre, oui, mais seulement pour innover. Donc je lui transmets, mais je lui demande de faire autre chose.
Alors juste avant d'entrer dans le détail des carrières qui s'offrent à lui et dans lesquelles vous avez excellé, un mot, vous ne lui conseillez pas un métier manuel? Ça, vous l'avez pas fait, ou pas exactement? Je pensais à 1000 métiers nobles qu'on exerce avec la main. Pourquoi ce réflexe de grand bourgeois intellectuel?
Vous l'avez dit, grand bourgeois qui a essayé de ne plus l'être et qui le redevient malgré lui. Qui est repris par son milieu. Je souhaite toujours échapper à mon milieu en prenant le parti des pauvres. Puis j'ai constaté que les riches ont gagné la lutte des classes. Alors, je suis pas d'accord avec eux, mais je me dis qu'il faut peut-être ne pas s'évertuer à courir après l'impossible. Alors, effectivement, le manuel, c'est bien ce qui manque aujourd'hui, l'apprentissage, la dignité de l'ouvrier manuel, la dignité de l'artisan. Moi, je suis un petit artisan des lettres, ce qui est manuel aussi, j'écris avec un stylo,
vous savez. Oui, ça vous le dites.
Je découpe mon papier, donc je suis un peu, je fais partie de cette classe qui n'est plus trop respecté.
Alors à vous lire, je n'ai pas l'impression précisément qu'écrivain pour un jeune, pour votre fils, soit une carrière porteuse. Pour quelle raison?
Écoutez, vous savez ce que Romain Rolland disait, je pense et j'écris pour agir. Moi, j'ai constaté que ce que je pensais, ce que j'écrivais, n'agissait pas. C'est-à-dire, n'influait pas. Et au fond, je suis bien forcé de constater que je n'ai pas changé un iota à l'état actuel des choses. Donc, alors, écrire pour se faire plaisir, oui. Écrire pour, réfléchir à ce qu'on est, observer les autres, oui. Mais ne plus penser changer le monde par le biais de l'écrit, dans un monde où il faut d'abord se faire voir et se faire écouter, mon cher Nicolas, pour pouvoir agir sur les esprits. Ce qu'on écrit, moi j'ai, pour tout vous dire, entre le tout économie et le tout image, j'ai l'impression d'avoir fait avec mes gribouillis des ronds de fumée.
qui ne servent à rien, ou que vous stockez dans votre cave, comme les invendus, comme vous le dites.
Ah, ils sont...
Que même les libraires ne veulent plus vous acheter au poids.
Oui, il leur arrive parfois d'avoir des indulgences, mais effectivement, il y a du stock dans la cave.
En même temps, bon, on vit dans un monde, ça vous le dites parfaitement, qui ne lit plus, ou qui lit moins, ou qui ne lit plus de la même manière. Donc,
oui, j'ai lu quelque
à quoi
part
bon
que,
écrire.
J'ai lu quelque part que depuis 30 ans, le temps moyen de lecture avait été divisé par 3. Mais le temps de l'écoute et du regard a grandi dans la même proportion.
Vous déconseillez aussi, Régis Debray, à votre fils le métier d'intellectuel engagé, alors que vous décrivez les belles rentes qu'il peut apporter. Ça ne sert plus à rien d'être derrière l'épaule du prince et de lui glisser à l'oreille quelques vérités fondamentales, le tout avec des majuscules.
Et des imparfaits du subjonctif.
Oui, très important.
Que généralement il ne comprend pas. Ou il ne comprenait pas, parce que les temps ont changé, comme vous savez. Mais, oui, je crois que les liens entre la politique et la pensée ont été coupés. Cela tient à beaucoup de facteurs. D'abord, me semble-t-il, la professionnalisation du métier politique, le changement de milieu technique, c'est-à-dire, disons, la fabrique de l'opinion aujourd'hui est industrielle, elle se fait par l'image, elle se fait par le son, elle ne se fait plus par le texte. Et donc, je me retrouve, nous nous retrouvons, si je peux parler d'une génération, un peu le bec dans l'eau, en tout cas non compétitif. Et donc, place aux communicants. Si vous voulez, depuis que le continent communication, récemment représenté chez vous, a pris en main la vie politique, et ben place aux communicants. Mais si vous voulez, entre l'expert comptable et le spin doctor, il y a plus place pour Chateaubriand ni pour les poètes.
Vous
se trouve coincé.
Vous feriez quoi si vous aviez l'âge de votre fils aujourd'hui et quelqu'un qui vous livre une telle lettre? Vous choisiriez quelle voie, vu que vous les avez quasiment toutes explorées, en tout cas celle que vous aviez entre les mains,
oui,
et que vous en revenez, non pas amer, mais bon, voilà, vous avez fait le tour.
Pas amer.
Non, pas amer.
On peut, disons, tout au plus désillusionner, mais dans une gaieté sans illusion. Voilà. Qu'est-ce que je ferais de la biologie, de la technologie, de la robotique? C'est là où les choses se passent. Et je suis très content que mon fils ait choisi cette voie.
Voilà, la science et surtout pas les lettres.
D'abord, je trouve les scientifiques beaucoup plus potables, si j'ose dire, ou buvables que les littéraires. C'est des gens plus modestes, qui ne la ramènent pas.
Qui travaillent ensemble.
Et qui travaillent en équipe, qui ont besoin de travailler en équipe, donc qui échappent un peu au tout à l'ego, si vous voulez, de la période. Et c'est évidemment, ce n'est plus dans la politique que les choses se passent, comme je l'avais cru. C'est aujourd'hui dans la recherche scientifique. Mmh.
Vous êtes toujours un gaulliste d'extrême gauche, Régis Debray.
Oui.
J'ai trouvé ça dans votre livre. C'est un hybride de haut vol, mais expliquez-nous.
Bah écoutez, l'époque est à l'hybridation. Non, j'ai choisi cette appellation pour déjouer les clichés, si vous voulez. C'est-à-dire pour essayer de réunir le sens du régalien et le sens du plébéien, disons le sens de l'État et le sens de la société et de l'individu. Et de l'émancipation et du mouvement ouvrier. Donc, je sais que c'est un peu baroque, mais je ne dis pas que ça n'a pas d'avenir. Il n'est pas impossible qu'on se fatigue de l'économisme, qu'on se fatigue du présentisme, et que l'on veuille retrouver à la fois, disons, l'intérêt général et la dignité de la puissance publique.
Comment un gaulliste d'extrême gauche, c'est-à-dire les deux côtés de la barricade en mai 68, traverse ce cinquantenaire de l'événement?
Avec ironie, mais l'ironie de l'histoire avouée à plein, n'est-ce pas? Comme disait Valérie, on entre dans l'avenir à reculons. Là, disons qu'on est, entré en Californie en passant par la Chine. On est entré dans le capitalisme financier avec le petit livre rouge en main. C'est une facétie que j'avais évoquée en 78 dans un petit livre qui n'avait eu aucun écho. Mais au fond, je m'abstiens parce que, étant empêché ailleurs, je n'ai pu participer à ce grand mouvement de fraternité. Et donc, je ne peux le juger qu'au résultat. Et je constate que, disons, que, vous me pardonnerez ce mot, on n'a pas été cagneux pour rien, comme vous, mais disons que l'effacement du père s'est traduit par l'épanouissement du pèse, du fric, et du chacun pour soi. Ce qui n'était pas du tout dans le programme. Mais l'histoire avance ainsi, avec des pas de côté.
En lisant votre livre, j'ai beaucoup pensé à votre fille, Laurence Debray, qui a publié « Fille de révolutionnaire » chez Stock, récompensée par le prix du livre politique cette année, livre sur ses parents et donc sur vous, Régis Debray. Elle a été banquière, elle a travaillé à la Bourse de New York, elle a fait HEC, maintenant elle écrit des livres. Êtes-vous fière d'elle ?
Absolument.
Ça, c'est une vraie Debray, un parcours baroque et paradoxal.
Écoutez, chacun choisit ses valeurs en fonction de la vie qui lui a été donnée. La vie nous est donnée par nos parents, mais aussi par les circonstances, par les endroits qu'on visite, les pays où on voyage, et chacun se rebelle contre ses parents, et elle a bien fait de le faire aussi.
Se rebelle et les fabrique, ses parents. C'est alors, ce que vous dites dans ce livre, oui, de très étonnant.
Oui, je dis qu'au fond, ce sont les descendants qui nous font, c'est-à-dire qui fabriquent notre mémoire. Moi, je crois que les parents ont des tuteurs qui s'appellent leurs enfants, parce que c'est eux qui vont prolonger l'histoire, lui donner son sens. Nous, on ne fait que faire l'insipide du livre, si vous voulez. Eux, ils font les chapitres qui viennent. Donc, au fond, c'est vrai, c'est un livre de transmission. Disons, c'est un appel à poursuivre, mais poursuivre dans un sens que j'ignore et qui, de toute façon, sera meilleur que le nôtre, en tout cas que le mien.
Un dernier mot avant de donner la parole à Léa Salamé tout de suite. Qu'avez-vous pensé de la vive altercation entre Jean-Luc Mélenchon, que vous appréciez politiquement, et votre fille à la télévision? C'était en décembre dernier. Très vive altercation.
Oui, et vous savez, je n'aime pas la violence verbale. J'aurais préféré que cela n'eût pas lieu. Voilà.
Vous avez souffert pour elle ?
Oui, bien sûr que j'ai souffert pour elle. Et j'ai souffert pour la situation, de façon générale. Mais vous savez, les dissentiments politiques n'empêchent pas les sentiments paternels.
Il est 8h34. Léa Salamé.
Régis Debray, vous déconseillez vivement à votre fils de choisir une carrière politique et vous avez des mots très durs sur ce qu'est devenu la classe politique. Je vous cite, des bonhommes, les hommes politiques, des bonhommes inconsistants qui ne retiendraient pas une minute l'attention sans un titre de ministre ou de président. Ou plus loin, des as du pipeau, retors, bluffeurs, arrogants, indifférents aux souffrances des autres et fort peu fidèles en amitié. On en est donc là. Cette vision désenchantée du politique et de la politique qui a perdu sa grandeur, qui a perdu sa métaphysique, est-ce qu'elle a changé avec Emmanuel Macron ? Est-ce que vous diriez que là, on a un président, un télo, voire cultivé, voire métaphysique ?
Alors, cultivé, certainement. Et j'ai lu avec plaisir, comme une belle surprise, cette interview à la NRF dont vous parliez vous-même. Je me demande bien sûr s'il ne veut pas racheter ce qu'il fait par ce qu'il dit, ou plutôt ce qu'il ne fait pas. Car en fait, on voit plutôt une politique très technocratique et pleine d'experts comptables. Mais en tout cas, c'est agréable de lire d'abord quelqu'un qui lit autre chose que des tweets et de voir quelqu'un qui a senti que la littérature, pour des gens comme lui qui n'ont pas beaucoup vécu, c'était comme une vie de substitution. Il dit à un moment, mais je découvre des sensations que je n'ai pas connues. Effectivement, il appartient à une génération qui n'a pas fait la guerre, comme François Mitterrand et d'autres. C'est une génération, si vous voulez, en ce qui concerne son milieu à lui, qui est passée directement de l'amphi de l'ENA à un bureau de préfecture ou de banque, et donc qui n'a jamais reçu de coup sur la figure, qui n'a pas connu la soif, la peur, la souffrance, toutes choses que d'autres générations antérieures ont connues. Et il a puisé, cette, je dirais, des vies de substitution dans la littérature, et ça sert à ça, la littérature,
oui,
à vivre ce qu'on n'a pas vécu. Et je m'en félicite le fasse.
Il n'a pas vécu la guerre, vous dites, et pourtant il dit dans cet entretien à la NRF, ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire redevient tragique. L'Europe, ce vieux continent de petits bourgeois se sentant à l'abri dans le confort matériel, entre dans une nouvelle aventure où le tragique s'invite. Vous êtes d'accord avec ça ou ce sont des mots un peu tarte à la crème qu'on répète, le retour du tragique?
Oui, tarte à la crème, ça n'engage à rien. Non, le tragique, disait Hegel, c'est quand les deux parties ont raison ensemble. Alors ça commence à mettre sur la piste. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une pensée binaire, un monde manichéen. Nous avons importé d'outre-Atlantique ce que j'appelle la feel-good diplomatie. Il y a l'axe du bien contre l'axe du mal. Et au fond, on vit dans cet élément. Alors c'est vrai que la littérature, ça apporte la complexité, l'épaisseur, la nuance. Et il est bon qu'il sache en tout cas qu'il y a un autre monde que le monde de l'économie et donc du présentisme où il nous fait vivre, car l'économisme est un présentisme.
Donc vous notez une dichotomie ou une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Je note que la politique a décroché de l'histoire, tout simplement, pour la même raison qu'elle a décroché de la théorie ou de la pensée ou d'un projet à long terme. Pas chez tout le monde, hein, mais en tout cas chez ceux d'aujourd'hui qui tendent à penser et parler de Globish.
Globish. Vous qui avez beaucoup réfléchi à la laïcité et à la place des religions, qu'est-ce que vous avez pensé du discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins et de cette phrase, notamment, il veut restaurer le lien entre l'Église et l'État?
D'abord, c'était un discours de belle venue. Notre président s'entoure de bonnes plumes, ce qui est déjà pas mal. Alors, évidemment, le mot de lien peut donner à réfléchir et peut surprendre, hein, s'agissant d'une loi de séparation de 1905. Non, moi, si vous voulez, ce qui m'a gêné, c'est que ces interventions sur le religieux pratiquent une sorte de sectionnement communautaire. D'abord, on parle aux musulmans, puis ensuite aux protestants, puis ensuite au monde juif, maintenant au monde catholique. Il y aura demain les orthodoxes et les bouddhistes, j'espère. Mais la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, si vous voulez, c'est une maison commune, et il faut qu'il dessine la maison commune, au lieu d'aller pièce par pièce, c'est-à-dire il faut qu'il synthétise, il faut qu'il donne le cadre général. Et le cadre, c'est quoi? C'est une construction juridique qui empêche la guerre de tous contre tous. La laïcité, c'est pas une machine de guerre, c'est une mesure de sûreté pour maintenir la paix. La paix civil et la paix religieuse.
Parler à chacune des communautés comme il le fait, est-ce que ce n'est pas un import de l'Amérique? Vous qui, dans votre précédent ouvrage, La Civilisation, avez dit qu'Emmanuel Macron était
bien
américain,
sûr.
Est-ce que là aussi, vous y voyez un signe?
Oui, puisque, n'est-ce pas, il serait dangereux qu'on puisse dire les catholiques de France, les juifs de France, les protestants de France, et non les Français de confession catholique, les Français de confession juive. Donc, définissons d'abord ce que c'est que cette France républicaine, et ensuite, dialoguons avec les différentes confessions. Donc, moi, je suis proposant l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. J'ai voulu passer d'une laïcité d'incompétence qui dit « la religion, ça me regarde pas », à une laïcité d'intelligence, essayons de comprendre, d'expliquer.
Quelques questions, Régis Debray, des auditeurs de France Inter. Sophie, par courrier électronique, vous demande la chose suivante. Pensez-vous que le manifeste sur le nouvel antisémitisme est dangereux pour la République?
Écoutez, c'est des bien grands mots, mais je crois effectivement...
Vous ne l'avez pas signé, ce
non.
manifeste?
Non, d'abord parce que je ne signe pas de texte collectif, mais surtout, on ne fait pas avancer une cause juste, qui est la lutte contre l'antisémitisme, en fomentant une autre sorte de haine. La lutte contre l'islam, globalement considérée, si vous voulez. Le musulman n'est pas l'ennemi, il n'y a pas de responsabilité collective. Nous avons des concitoyens musulmans comme des concitoyens juifs et nous devons veiller à leur sécurité aux uns comme aux autres.
Colette dit la chose suivante, Régis Debray m'a l'air bien pessimiste. quel serait son remède à la mélancolie, comme on dit sur France Inter?
Non, si vous voulez, la mélancolie, ça sert le cœur. La nostalgie, c'est différent. Ça sert les poings. C'est-à-dire qu'on a envie de faire aussi bien que les anciens. Mais pour faire aussi bien que les anciens, faut les connaître. Moi, tous les révolutionnaires que j'ai connus avaient un rétroviseur devant eux, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire aussi bien que ce qu'on avait fait avant eux, que ce soit Zapata pour Marcos ou Gracchus Babeuf pour Saint-Just, si vous voulez. Donc, le remède contre la mélancolie, je dirais, c'est l'action civique, là où on peut, et surtout la connaissance, voire même le plaisir de s'approcher des autres, de voir comment ils vivent et d'essayer de comprendre. C'est modeste. Mais vous savez, à l'heure où, disons, à l'heure où il s'agit de sauvegarder ce qui nous fait, plutôt que de courir après ce qui nous fuit, je crois qu'il faut limiter ses ambitions sans renoncer à ses convictions.
Cécile, bonjour, vous êtes au Standard d'Inter, vous nous appelez de Rennes.
Oui, bonjour Monsieur Demorand et bonjour Monsieur Debray.
Bonjour.
Merci pour vos propos. Hein. Voilà, je vous soumets une petite phrase d'Emmanuel Macron qui a dit apparemment plusieurs fois « Les riches n'avaient pas besoin du président de la République. Alors pour vous, est-ce le début de la faillite ou de l'anarchie émancipatrice ? Je dirais quid des pauvres, ont-ils besoin de tutelle ?» Voilà.
Merci Cécile pour cette riche question que je livre à Régis Debray.
Il est évident que les pauvres ont beaucoup plus besoin de l'État que les riches. Les riches, ils se débrouillent. Les pauvres, ils ont besoin de la loi. La loi qui libère, la loi qui essaye de remonter la pente des inégalités. Et ça, il n'y a que la loi pour le faire. Donc, il n'y a que la puissance publique. Donc, effectivement, faire que l'État ne soit pas seulement l'instrument de la classe dominante, comme je l'ai longtemps pensé, comme je le pense toujours un peu, hein, mais tout de même, faire que l'État soit également au service de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, de ceux qui ne sont pas importants ni prépondérants, c'est pour moi être de gauche, si vous voulez. Alors, c'est peut-être pas être de centre-droit, mais en tout cas, ne me faites pas parler politique politicienne, je n'y comprends rien.
Merci Régis Debray.
Merci Nicolas de votre indulgence.
Merci pour votre présence ici à France Inter et pour ce livre Bilan de faillite publié chez Gallimard et belle et longue route à votre fils qui est là avec nous en studio. À suivre dans quelques instants le carrefour du 7-9, édito-média, archives politiques, revue de presse.
Et humour avec Sophia Aram.
À dans quelques instants.